France Musique. France Musique, guitare, Sébastien Linares.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les studios de guitare, ravi de vous retrouver chaque semaine à l'antenne de France Musique. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir à notre micro Jérôme Tiozzi, musicien, guitariste et compositeur corse. C'est un instrumentiste qui utilise la technique classique de la guitare pour voyager dans plusieurs styles, avec néanmoins un ancrage fort dans la culture de son île. Il collabore d'ailleurs avec de nombreux artistes insulaires, comme par exemple l'ensemble Affiletta ou la chanteuse Diana Salicetti, mais aussi avec certains grands noms de la scène française, comme Patrick Fiori ou Thomas Dutronc, avec lequel il joue souvent et pour lequel il a écrit plusieurs chansons. Il a sorti récemment un album solo, délicat, rêveur et tendre, intitulé Partenza, un peu comme une collection de cartes postales des rivages de l'île de beauté et ses petites plages qui ressemblent à des trésors. On parlera de tout ça avec lui tout à l'heure, on l'écoutera aussi en live. Dans nos studios à 12h50, dans Guitare de Légende, je vous parle d'une pièce centrale du répertoire original de la guitare classique, le prélude numéro 1 d'Heitor Villa-Lobos. Alors, la semaine dernière, vous avez été vraiment sensible aux différents aspects de l'art de Django Reinhardt et aux multiples regards que l'on pouvait porter aux différentes périodes de son évolution musicale. À chacun son Django, et notre invité aussi m'a confié qu'il avait son morceau préféré. L'improvisation numéro 2 de Django Reinhardt en solo, une pièce très touchante. Django, avec sa spontanéité, son naturel habituel, fait parler sa guitare, il nous raconte une histoire avec des techniques que l'on n'a pas trop l'habitude d'entendre chez lui, des arpèges qui ressemblent à ceux de la guitare classique, des accords plaqués avec les doigts, et encore et toujours on le redécouvre et on apprend. Thank you. Une autre grande influence de notre invité Jérôme Chiosi, le guitariste Toquinho, ici en solo, un titre extrait de l'album Tocando, un style simple et direct, loin de toute virtuosité, mais qui nous transporte au cœur de la musique brésilienne grâce à la justesse des rythmes, du tempo, des intensités, c'est très beau. Toquinho, c'est quasiment le binôme de Vinicius de Moraes, mais lui construit sa poésie avec une guitare.
A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou quem dera moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar. Depois que a banda passou, cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor.
L'univers de Toquinho fait de thèmes brésiliens devenus des classiques, comme cette Abanda que l'on écoutait à l'instant, composée par Chico Buarque, chantée pour la première fois en 1966 par Nara Leao. C'était suivi de la Bachianina, dans laquelle il rend bien sûr hommage et s'inspire de la musique de Jean-Sébastien Bach, pour en faire une sorte de velouté de musique de chambre et de bossa nova. Mais bon, maintenant rentrons de Sao Paulo, revenons en Corse, il y a pire d'ailleurs comme voyage, je trouve. L'instrument phare ancien et patrimonial de l'île de Beauté, c'est la Cetera, une variante du sistre longtemps disparu, mais qui renaît de ses cendres et qui est aujourd'hui en pleine forme grâce au travail combiné des luthiers et des interprètes. Le luthier de Pigna, un extrait de l'album Corsica, Ange Lanzalavi à la mandoline corse, Bruno Tafani à l'accordéon et Jérôme Ciosi à la cetera, des instruments qui abritent, qui portent avec eux des répertoires traditionnels, des manières de jouer, des modes de jeu anciens. Thank you. Au Catali, un thème traditionnel décliné ici en deux improvisations. Dans la première partie, vous entendiez un duo de Cetera. Et dans la seconde, alors là, c'est carrément une dizaine de musiciens, dont notre invité Jérôme Tchiosi, avec des Cetera de différentes tailles et de différents registres, à 4 chœurs ou à 5 chœurs, et toutes réunies dans un ensemble dirigé par Henri Agnel.
France Musique, guitare, guitare. Sébastien Linares.
C'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité à nos micros. Et avant de commencer à discuter, je vais vous faire entendre une chanson de Thomas Dutronc intitulée Nasdaq, une chanson dans laquelle Jérôme Tchiosi joue la guitare et qui est issue du disque Comme un manouche sans guitare. Et ensuite, ce même thème, réinterprété de façon purement instrumentale et revisité en une mélancolique bossa nova façon standard pour son album Partenza.
Je vais tous les niquer, toujours plongé dans le CAC 40, devant mon ordi et mes sushis. Je parle anglais, je suis toujours bronzé, dans des hôtels et des cocktails. La vie est belle, je n'ai pas de copain, je n'ai pas de chien, même pas le spleen, ça ne sert à rien. J'ai un briefing dans un quart d'heure, je suis un tueur. Je blanchis mes dents, mais aussi de l'argent. J'ai fait dorer mon parachute. J'ai adoré vous jouer de la flûte. Un compte en Suisse et pas de contentieux. Je monte mes indices, je fais toujours mieux. Je suis terrible. Un peu de vent dans ton corsage. Je t'imagine sur la plage. Elles deviennent toutes folles de mon corps. Je suis trop fort.
Londres, Paris, Amsterdam.
Je fais mes graphiques au milieu du trafic. J'ai une voiture avec chauffeur. J'écrase parfois quelques chômeurs. Je n'ai pas le temps de pleurer sur leur sort. Je vis dans le présent, j'ai main vaudant. Une vache à lait, mais j'ai un bon fonds d'investissement. Je fais de bonnes actions à 20%, j'ai choisi la bourse et la vie, je suis pas Nasdaq. De bonnes actions à 20%, j'ai choisi la bourse et la vie. Moi, mon tailleur est italien. C'est impossible que je craque. Je suis pas Nasdaq. Dac. Thank you.
Bonjour Jérôme Tsiozzi. On est très heureux de vous avoir avec nous. On le voit depuis le début de cette émission, de la cetera à la chanson française, de la bossa à l'improvisation. Alors comment, en partant de la guitare classique, car votre socle c'est bien la guitare classique, comment on arrive à ce mélange qui fait votre personnalité?
Ben effectivement, j'ai commencé par la guitare classique. J'ai baigné dans cet univers incroyable et magnifique, fait de précision, de grande sensibilité sur le son, sur les...
De détails.
De détails, voilà. Ouais. Et donc j'ai toujours gardé ce trait de caractère, entre guillemets, de guitariste. Et effectivement, j'ai voulu toujours garder cela dans toutes les musiques que j'essaie de pratiquer.
Partout dans votre musique, il y a en filigrane l'univers du jazz. Alors, quelles sont vos figures? Comment vous avez abordé cette musique-là? Est-ce que c'est des rencontres ou comment ça s'est passé?
Ah ben, le jazz, en fait, ça s'est passé d'une manière un peu inhabituelle. C'est que mon père est un chanteur corse, émérite, Antoine Tsiozzi. Et ce chanteur, il a été accompagné pendant 20-25 ans par des musiciens manouches qui s'appellent les frères Briaval. C'était ces trois frères. Donc c'est eux qui m'ont fasciné avec le jazz de Django.
D'accord.
Parce qu'ils faisaient quelques petits morceaux instrumentaux dans les spectacles de mon père. Et moi, j'étais tout gamin, je commençais la guitare et j'étais fasciné par leur musique et j'ai été sensibilisé grandement. Mon grand-père aussi écoutait beaucoup Django Reinhardt.
On disait tout à l'heure, chacun son Django. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez Django? Parce que Django, c'est une figure qui est très large en fait. Et souvent, on l'a réduit à une petite période ou à quelques enregistrements, mais finalement, c'est quelqu'un qui est très 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 large.
Effectivement, c'est un des seuls musiciens à ma connaissance, Django, qui a pu autant modifier son style. Parce qu'il est parti comme ça du Django le plus connu, c'est-à-dire celui qui a vraiment la patte la plus identitaire qu'il a fait dans les années 30. Et ensuite, il a évolué, il a fait plutôt du swing. Et à la fin de sa vie, juste avant qu'il meure, il a développé un style de guitare électrique qui est incroyablement moderne et incroyablement différent de ce qu'il faisait au départ. Et donc moi, je ne vois pas de musicien qui ait cette caractéristique. Parce que même Miles Davis, par exemple, qui a beaucoup évolué dans sa carrière... Lui-même, il jouait toujours un peu pareil finalement. C'est l'environnement qui changeait. Mais Django, c'est incroyable quand on écoute son dernier disque avec Nuages, la dernière version de Nuages, Night and Days, tout ça. C'est incroyable son inventivité par rapport au début.
Et alors, dans votre jeu, il y a aussi beaucoup l'influence de la bossa. On écoutait Toquinho tout à l'heure.
Alors ça, j'ai vraiment une passion aussi incroyable pour la musique brésilienne, et notamment ces grands guitaristes comme Toquinho, Baden, Powell et tout ça. Et parce que là, pour le coup, il y a vraiment une similitude avec la guitare classique. C'est le même instrument, la guitare avec des cordes en nylon, le jeu est un peu similaire. Donc là, c'était un débouché, très naturel pour moi.
Très naturel, ouais. Finalement, la bossa, c'est une manière de faire du jazz avec la guitare classique.
C'est ça,
non?
C'est ça.
Donc, on l'écoutait là, juste avant qu'on se parle. On vous connaît aussi pour votre participation à la musique de Thomas Dutronc. C'est quelqu'un qui est lui-même guitariste, et qui aime la belle guitare, la manouche, la classique, et qui aime être entouré d'excellents musiciens. Alors, comment ça s'est passé, votre rencontre avec lui?
Eh bien, en Corse aussi.
En Corse, tout part en Corse, hein, finalement.
Je suis désolé, mais on s'est rencontrés dans un petit village, dans lequel il y avait un bar. Je crois que d'ailleurs, le bar a fermé, malheureusement. Le village se situe en Balagne, et donc ce bar organisait régulièrement des petits concerts. Ouais. Et un jour, Thomas, qui jouait avec un ami qu'on a en commun, qui s'appelle Antoine Tatiche, qui est un guitariste aussi. Et voilà, donc Antoine m'a convié, m'a dit, viens, je vais te présenter Thomas et on va faire un petit bœuf et tout ça. Et on a tout de suite sympathisé.
Ah oui, c'est parti de là. Ok. Et comment ça se passe, le travail avec lui? Vous improvisez ou vous faites vos propres parties? Vous écrivez? Il y a un processus créatif ensemble ou comment ça se passe?
Oui, il y a un processus créatif, mais qui n'est pas écrit.
D'accord.
Donc, c'est beaucoup des répétitions dans lesquelles on essaye de déterminer à chaque fois la meilleure partie qu'on veut faire.
Donc une grande place aux instrumentistes.
Voilà, une grande place aux instrumentistes, mais sans un processus d'un chef d'orchestre qui fait des arrangements et qui fait des choses très cadrées. Là, c'est un peu chacun qui doit trouver sa partie dans cet univers qu'on essaie de faire. Ce qui est intéressant, c'est les harmonies. Parce que l'harmonisation des mélodies, c'est un champ de créativité qui est incroyable.
Alors j'aimerais maintenant qu'on aborde le côté musique traditionnelle. Est-ce que, donc vous le jouez dans votre dernier disque qu'on a un petit peu écouté, est-ce que ces musiques, elles étaient présentes finalement dans votre vie d'enfant ou c'est des choses que vous avez retrouvées? Est-ce que c'est encore vivant finalement en Corse? Parler de la Corse.
oui, ça l'est. Ben, moi je les ai écoutées, j'ai été bercé par ces mélodies, parce que mon père étant chanteur, c'est sûr que j'étais encore plus bercé que d'autres gens. Mais non, il y a une tradition qui est très vivace en Corse. Et c'est incroyable d'ailleurs le nombre de gens qui font de la musique en Corse.
D'accord.
Au mètre carré. C'est assez stupéfiant l'engouement des jeunes et de tout le monde pour le chant et pour la musique.
Et pour ces mélodies-là, particulier ?
Alors, il y a tout un champ de musique encore. C'est-à-dire qu'il y a les traditionnels comme ça, qui sont toujours quand même très connus. Mmh. En fait, ils ont été popularisés et enregistrés initialement par les groupes qu'on appelait les groupes folkloriques, qui avaient, à partir des années 30, 40, il y avait des groupes 50, des groupes folkloriques, qui ont commencé à faire vivre ce fond de musique traditionnelle. Après, les groupes ou les artistes un peu plus récents s'en sont emparés. Donc ça, c'est la première partie, on va dire, de la musique corse. Et ensuite, il y a toute la partie créative qui, à partir des années 60, a pris un essor incroyable. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de créations. Donc les gens connaissent toutes les créations et connaissent très bien les traditionnels.
Et par rapport à l'instrument, la cetera, parce que c'est un instrument qui a disparu quoi, pendant un moment et qui revient finalement avec le mouvement des musiques anciennes et des musiques baroques, etc. Vous l'avez abordé comment, cet instrument-là?
Moi, j'habite en Corse à côté du village de Pigne.
Okay.
Et c'est un village culturel et qui est incroyable dans son évolution et dans son parcours. Et donc, dans ce village, il y a justement un luthier qui s'appelle Hugo Casalonga, qui est une des personnes qui a reconstruit l'instrument de la cetera. Parce qu'effectivement, il avait disparu de l'usage.
Le premier qu'il a reconstruit, c'est
un
ça ?
Un des premiers.
Un des premiers, qui a participé
voilà,
à ça.
Qui a participé à ces recherches pour arriver à refaire cet instrument. Et donc, voilà, moi, je le connais depuis très longtemps. Et ça a été une des raisons qui m'a poussé à m'y intéresser. C'est aussi que mon père m'a dit, je vais t'acheter une cetera.
Ah oui, donc du coup,
voilà.
Il fallait bien apprendre à en jouer.
C'est ça. Ben, sur ce dernier disque, je ne joue pas de cetera.
Oui.
Par contre, bon, mais j'ai voulu y mettre mes compositions. C'est la première fois que j'ai fait un disque avec uniquement mes compositions. Mmh. Enfin, uniquement, il y a deux traditionnels corses et le reste, ce sont mes compositions. Voilà, je voulais essayer de donner un côté un peu plus personnel à mes enregistrements. Voilà, c'est pour ça.
Bah, et en tout cas, c'est très réussi. Donc là, on a la chance que vous ayez, comme par hasard, amené non pas votre cetera, mais votre guitare. Et vous allez nous jouer un extrait. Est-ce que vous pouvez nous présenter?
Oui, alors je vais vous jouer une mélodie qui s'appelle « O Citadella ». Ça veut dire « la citadelle ». Donc ça évoque... On a plusieurs citadelles en Corse qui sont toutes très particulières. On a Calvi, Corté, Bastia. Voilà, je sais pas. C'est la vue qu'on a quand on est notamment sur la citadelle de Calvi. On voit la mer en face qui est immense, à plein de vues, et on se retourne, on voit la montagne enneigée. Et voilà, c'est ça que j'imagine.
Jérôme Tiosi, on vous écoute. Thank you. On écoutait dans nos studios la guitare de Jérôme Ciosi.
Merci, merci. Alors Sébastien, on a beaucoup parlé de la Corse. Et justement, je voulais vous proposer qu'on joue quelques mélodies traditionnelles ensemble, en duo, si vous êtes d'accord.
Je tente l'aventure. Allez, je vous suis en confiance.
Thank you.
Jérôme Tchosi, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ensemble sur France Musique et les midi 50.
Guitare de légende, Sébastien Linares.
Aujourd'hui, le prélude numéro 1 d'Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos est né en 1887 à Rio de Janeiro, peu de temps avant l'abolition de l'esclavage et de la monarchie au Brésil. Il appartient à une génération en quête de renouveau, habité par la volonté et l'optimisme, ouverte au progrès et à la modernité. Et on peut dire que l'histoire de sa vie et son impressionnant catalogue de compositions témoignent au mieux de cet état d'esprit. Avant tout, Villa-Lobos est un esprit original qui possède une puissance de création hors norme. En grande partie autodidacte, il se méfie de l'institution en général et se tient le plus loin possible des académismes. Musicalement, il se forme au violoncelle avec son père pendant son enfance. Des heures à pratiquer les gammes et les grandes œuvres, certes, mais aussi des heures à chercher des sons et à s'amuser avec, à imiter son environnement acoustique avec son instrument, le chant des oiseaux, le train qui passe, le bruit poétique de l'eau qui coule ou celui plus âpre de la chaise qui grince. Une éducation qui le marquera toute sa vie. Il composera à l'oreille, à l'instinct, comme il respire, sans rien s'interdire. Il devient curieux de tous les instruments, pratique donc le violoncelle bien sûr, mais aussi, et ce contre la volonté de sa mère qui aurait préféré en faire un médecin, la clarinette, le piano et la guitare. Avec cette énergie, ses savoir-faire variés, sa culture, son éclectisme, il gagne très vite sa vie comme instrumentiste. Il joue des choros, participe à des ensembles, il improvise dans des soirées. Sa musique se construit, vivante, toujours en mouvement et s'imprègne de l'univers des musiciens qu'il rencontre. Il est autant marqué par la grande musique européenne, celle de Bach en haut de la liste, mais aussi celle de Debussy, Falla, Bartók, Stravinsky, que par les musiques populaires et traditionnelles en tout genre, celles qui l'entourent et que l'on entend à la ville, Nazareth, Pernambuco, ou celles qu'il découvre lors de ses voyages dans les contrées reculées du Brésil. En 1924, Villa-Lobos rencontre André Segovia et se met à écrire pour la guitare. Lorsqu'il montre certaines de ses 12 études au maître, celui-ci est si étonné qu'il juge les partitions injouables. Et c'est Villa-Lobos lui-même qui doit lui expliquer ses trouvailles et lui montrer comment les jouer. On imagine l'aplomb qu'il fallait avoir pour dealer ce genre de choses avec Segovia, mais Villa-Lobos était aussi un grand homme, un artiste sûr de son œuvre, un homme entouré, un acteur central du milieu culturel. Son premier prélude est un pur chef-d'œuvre fait de longues lignes mélodiques qui rappellent le violoncelle, car elles sont jouées dans le registre grave de l'instrument. Des lignes qui glissent sur la corde qui se répètent et terminent toujours plus haut. Ici sur le Mi. Ici jusqu'au Fa dièse. La mélodie redégringole dans un tourbillon de dissonance qui se fixe sur cet accord de si majeur. La ligne continue d'évoluer dans les registres les plus graves de manière fluide et chantante et s'habille d'harmonie populaire. Un passage du milieu qui module dans un mi majeur lumineux et extraordinairement brillant. Accentué par des ornements en forme de feu d'artifice. Avant lui, jamais personne n'avait rendu la guitare aussi puissante, résonante, sonore, contrastée. Ses renversements, ses voicings, comme on dirait dans le jazz, la façon dont il utilise les registres, tout semble orienté pour mettre en valeur autant l'instrument que la musique. Cette écriture claire et puissante est une révolution pour la guitare. Plus qu'une révolution, elle est même devenue un nouvel ordre établi. La semaine prochaine, France Musique se déplace à Nantes pour la folle journée. Je vous retrouve donc dans 15 jours. On parlera de Béla Fleck et de son instrument, le banjo. À la réalisation aujourd'hui, Delphine Keravec, Lucas Derode à la technique et à la prise de son, ainsi que l'aide d'Annick Aumier. Très bon week-end à vous tous. N'oubliez pas de visiter le site et l'appli Radio France pour vous abonner à nos podcasts, regarder nos vidéos, consulter nos programmes en détail et bien sûr nous écrire.
France Musique.